Bonsoir, ici Dieudonné Oumba pour La Voix du Palais. Heureux de vous retrouver ce soir encore pour une autre édition de cette émission consacrée aux activités et à l'action du président de la République. Paul et Chantal Biya aux Jeux Olympiques à Paris. Le couple présidentiel a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture des 23e Jeux Olympiques. Présence bien remarquée dans l'Hexagone. France-Cameroun, l'on parle politique et affaires. Le chef de l'État, le président Paul Biya, séjourne dans la capitale française, allie l'utile et l'agréable. Le président de la République, à marge des Jeux de la 23e Olympiade, a pris langue avec le président français Emmanuel Macron, ainsi qu'avec l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Lutte contre la corruption au Cameroun, où en est-on ? Le point ce soir avec le révérend docteur Dieudonné Massigams, c'est le président de la Commission nationale anticorruption, CONAC. En réponse à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, et du président du Comité international olympique, Thomas Bach, le président Paul Biya est à Paris pour les 23e Jeux olympiques. Il a quitté Yaoundé mercredi 24 juin 2024 pour la capitale française en compagnie de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Aéroport international de Yaoundé Nsimalen, ce mercredi 24 juillet 2024, pas de superflu, juste un décor et un protocole dépouillé. Mais pour honorer la tradition établie sur les sorties du couple présidentiel, quelques groupes de danse, dont Nkonkoa, mobilisés pour attendre Paul et Chantal Biya au fin des au revoir. Mobilisés également, les militants du RDPC de la section Mefoué à Famba Sud. Même décor, côté personnalité, avec à la clé le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, et le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Arrivé sur les lieux, le couple présidentiel se rendra à la loge à lui dédiée, non sans recevoir les ovations des populations présentes. Et quelques instants plus tard, ce sera au bas de la passerelle pour les au revoir. Le président de la République et la première dame camerounaise vont ainsi serrer la main au trio de personnalités présents. Le premier ministre Joseph Dion Nguté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, et le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le président Paul Biya, d'un pas mesuré mais rassurant, va emprunter l'échelle de l'aéronef, non sans donner quelques ultimes directives à ses proches collaborateurs. Une fois en fin d'exercice, l'aéronef, un Boeing 727-200, va effectuer les dernières manœuvres sur la piste avant de prendre l'envol. Et ce, sous les regards des personnalités présentes. C'était autour de midi, sous une météo clémente. Le 26 juillet 2024, le couple présidentiel a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 23e Olympiade à Paris. Yves-Marc Mdjou nous en parle.
Le clap de fin. Après près de 4 heures de spectacle, Céline Dion entonne l'hymne à l'amour, une reprise de la chanson culte d'Edith Piaf. Assurément, les organisateurs de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 auront gardé le meilleur pour la fin. Cet acte ultime vient mettre le point final à une organisation que la France, hôte des Jeux, a voulu parfaite. Tout étant dit, tout étant fait, Emmanuel Macron, le président français, peut alors déclarer officiellement ouverte la compétition. Applaudissements nourris tout le long des berges de la Seine, où 325 000 spectateurs ont pris place pour vivre l'événement et n'auront pas vu le temps passer. Pendant 240 minutes qu'aura duré le spectacle, la France et le Comité international olympique ont offert ce qu'il y avait de plus beau, de plus coloré. Dans le même temps, le vivre ensemble et la fraternité, portés par la flamme olympique, auront émerveillé tous et toutes celles qui, sur place ou devant leurs écrans, ont assisté au vécu ce joli bouquet. Présent aux côtés d'une centaine d'autres têtes couronnées de la planète, le président de la République, Paul Biya, et la première dame Chantal Biya ont assisté d'un bout à l'autre à cette parade riche en émotions. Une parade ouverte par le défilé par ordre alphabétique des différentes délégations. En bonne place dans les rangs des défilants, la team Cameroun, dont le passage sera particulièrement remarqué. L'enthousiasme des athlètes camerounais et l'originalité de leurs costumes qui valorise les innombrables trésors de l'industrie textile de notre pays, sera source de grande fascination pour les spectateurs, arrosée par une fine pluie qui a choisi elle aussi de s'inviter à la fête. fête. Pour le couple présidentiel camerounais, le déplacement à Paris cet été 2024 aura été un voyage utile. D'abord pour Paul Biya, qui a eu la possibilité d'avoir une fois encore l'opportunité d'échanger plus directement avec ses pairs partout où il s'est rendu, que ce soit la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux sur les bords de la Seine ou peu avant, au cours de la réception officielle, offerte en l'honneur de l'ensemble des convives de ce rendez-vous parisien. Mais le centre de gravité de cette visite restera à coup sûr ce nouveau tête-à-tête Biya-Macron au palais de l'Élysée ce 26 juillet 2024. Une nouvelle rencontre entre les deux dirigeants qui leur a offert l'opportunité de se parler et d'évoquer des questions d'intérêt commun au profit de leurs pays respectifs. Et c'est dans le prolongement de cette dynamique que la première dame Chantal Biya sera restée elle aussi sur la brèche. Sa participation au déjeuner offert à l'hôtel Le Méris par Brigitte Macron, l'épouse du président français, en l'honneur des conjoints des dirigeants présents à Paris cet été, lui aura assurément offert aussi l'opportunité de multiplier des contacts et de poursuivre son plaidoyer en faveur d'un monde plus inclusif qui ne laisse pas les couches vulnérables dont elle est l'ambassadrice sur le bas-côté. En attendant que toutes les leçons soient tirées, il ne fait pas de doute que le déplacement à Paris de Paul et Chantal Biya ce mois de juillet 2024 aura été fructueux en tout point.
Après l'ouverture des Jeux Olympiques, le président Paul Biya a rencontré à tête à tête le président français Emmanuel Macron. Au menu, évidemment, la coopération entre Yaoundé et Paris.
Une dizaine de minutes ici à Paris, le président de la République, Paul Biya, quitte ses appartements privés du Four Seasons George V Hotel pour prendre la direction de l'Élysée, où l'attend déjà son homologue français, Emmanuel Macron. Malgré un agenda fort chargé et un volume de sollicitations très élevé et fort compréhensible en ce jour d'ouverture officielle des Jeux Olympiques Paris 2024, le président français a tenu à recevoir son homologue camerounais. C'est donc logiquement un tête-à-tête qui témoigne de l'excellente trajectoire actuelle de l'axe Yaoundé Paris et qui assurément sert de marqueur dans la relation entre les deux pays. Le tête-à-tête Biya-Macron de ce 26 juillet a pour cadre l'un des salons des jardins de l'Élysée. Heureuse coïncidence, cette rencontre se tient 2 années jour pour jour après l'audience entre les deux dirigeants à Yaoundé lors de la visite officielle du président Macron au Cameroun. À son arrivée à l'Élysée, le chef de l'État camerounais est accueilli par son homologue français à sa descente de voiture, preuve de toute l'amitié et de la grande estime qu'il lui porte. C'est un Emmanuel Macron très attentionné qui vient ce 26 juillet 2024 à la rencontre du président camerounais. Dans le même temps, des honneurs singuliers lui seront rendus par un détachement français de 10 éléments sabre au clair. Après avoir immortalisé ces moments uniques devant les objectifs des caméras, les deux chefs d'État vont se retirer pour des entretiens à huis clos. Des entretiens qui vont durer un peu plus de 45 minutes. Il ne fait pas de doute que cette nouvelle rencontre entre les deux dirigeants après Lyon 2018, Yaoundé 2022 et Paris 2023 leur aura permis d'évaluer les différentes avancées depuis ces précédentes rencontres et d'évoquer d'autres questions plus spécifiques. Après avoir pris congé de son homologue français, le président Biya va regagner son hôtel de résidence qu'il va à nouveau quitter un peu plus tard dans l'après-midi pour prendre part, cette fois en compagnie de la première dame Chantal Biya, à une réception offerte par le président français à l'endroit de l'ensemble des dirigeants invités à ces Jeux de Paris avant de se rendre à la cérémonie solennelle d'ouverture. Pour revenir à la relation entre le Cameroun et la France, la fréquence des contacts entre les deux dirigeants et l'écoute bienveillante qui les entoure autorise à penser que celle-ci a encore de beaux jours devant elle.
Et pour boucler ce dossier hexagonal, Yves-Marc Médiot nous relate également les dits et les non-dits de la rencontre le 30 juillet dernier entre le président Paul Biya et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française.
Après sa participation à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 au Trocadéro. Dans l'agenda du président Biya ce mardi 30 juillet 2024, une audience avec l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. L'audience a pour cadre l'une des suites du Four Seasons George V Palace. 15 minutes avant 15h, heure de Paris, 14h au Cameroun, Nicolas Sarkozy est annoncé. À sa sortie d'ascenseur, il sera accueilli par son Excellence André Magnou Sekoumou, l'ambassadeur du Cameroun en France, avant d'être installé dans l'un des salons du palace au bon soin du chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikélé. À 15h précise, heure prévue pour l'audience, le président Biya fait son entrée dans la salle pour rejoindre son hôte. L'audience peut alors commencer. Celle-ci va durer une trentaine de minutes. Elle se déroule à huis clos, mais toutefois, on note tout à côté la présence du ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo. Aucune déclaration ne sera faite à la presse par l'ancien président français au sortir de sa rencontre avec le président camerounais. Mais pour revenir à Nicolas
Sarkozy. On se rappelle qu'il a été président de la République française de mai 2007 à mai 2012. Il est par ailleurs connu comme un ancien militant du Parti Les Républicains, dont il a par ailleurs assuré la présidence avant de se mettre par la suite en retrait de la vie politique pour se consacrer à ses activités d'avocat d'affaires, d'associé à des fonds d'investissement et d'écrivain. Et c'est précisément, apprend-on de sources généralement bien informées, en cette double qualité d'avocat d'affaires et d'associé de fonds d'investissement et en préparation de la visite d'une délégation d'hommes d'affaires français qu'il conduira bientôt au Cameroun, que l'audience de ce 30 juillet 2024 a été accordée à l'ancien président de la République française par le président Biya, qui, on le voit, continue de travailler sans discontinuer à Paris.
Autonome de Kribi et suivant les hautes directives du chef de l'État, M. Bechol Iol Charité de Bessombe préside désormais le conseil d'administration. Le haut responsable a été installé au cours d'une session extraordinaire du conseil d'administration à Kribi le 29 juillet dernier. Le président de la République a pris une série de textes nommant le 23 juillet dernier le secrétaire général de l'université de Yaoundé 1 et les responsables dans certaines universités d'État. Autre texte présidentiel, celui signé le 24 juillet dernier et prorogeant le mandat des conseillers municipaux. Celui portant ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Cameroun et le Canada et celui portant sur l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes. D'autres textes relatifs à l'adhésion du Cameroun au traité de l'OMPI, aux conventions des Nations Unies sur le statut des apatrides, ont également été pris. Corruption au Cameroun, regard dans la glace. Après la création de la Commission nationale anticorruption, CONAC, et son entrée en activité, beaucoup a été fait. Mais la gangrène persiste et fait toujours mal. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce qui reste encore à faire? Question ce soir à Dieudonné Massigams, le révérend docteur président de la Commission nationale anticorruption, CONAC, et notre invité.
Révérend docteur Dieudonné Massigams, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous honorez ce soir en étant présent à cette émission, La Voix du Palais, qui est consacrée aux activités et à l'action du président de la République. On va faire le point ce soir sur la lutte contre la corruption. Où en est-on?
Bien, merci pour la question et je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu et à dire toute notre reconnaissance à Monsieur le Président de la République, hein, parce que son initiative a été salutaire et nous pensons que la lutte contre la corruption est bienvenue pour avoir décidé de la création d'une structure depuis 2006 pour la lutte contre la corruption. Et nous commençons à nous rendre compte que ce qui nous a dit en 2011 que la lutte contre la corruption sera une activité de longue haleine, nous le comprenons davantage aujourd'hui et nous pensons qu'il faudrait savoir lui reconnaître cela. Et pour voir à quel niveau on se trouve, nous savons tous qu'en 2010, la CONAC, après la création, a élaboré la stratégie nationale de lutte contre la corruption, validée par le gouvernement camerounais en mars 2011. Et c'est ce qui sert de boussole pour la lutte contre la corruption dans notre pays. Et tous les secteurs se sont retrouvés pour élaborer ce document qui sert aujourd'hui d'élément fondamental permettant l'orientation avec des principes de base qui sont le précis, à savoir la prévention, l'éducation, l'incitation, les conditions et puis les sanctions. À quel niveau se trouve-t-on aujourd'hui par rapport à la lutte contre la corruption? Nous pouvons relever deux faits. Le premier fait, c'est que si avant 2006, le Cameroun était mal classé, aujourd'hui nous ne pouvons plus le dire parce que la réalité de ce que le président de la République a vu et qu'il a demandé qu'on fasse, cette réalité a permis que le rang du Cameroun change.
Vous voulez dire que la corruption au Cameroun a été réduite?
Elle a été quand même réduite, mais elle n'est pas encore réduite à sa plus simple expression parce qu'il y a encore affaire, il y a encore des résistances, il y a encore des goulots d'étranglement. Nous sommes encore confrontés aux tigres et aux mouches et ça, il faut le reconnaître, mais c'est un travail qu'il faudrait davantage faire. Ceci nécessite absolument, et nous insistons là-dessus, l'éducation est très importante, la prévention est très importante, la sensibilisation est très importante, les descentes sur le terrain pour davantage implémenter, équiper, outiller, pour davantage amener une masse positive critique qui pourrait être davantage gagnée pour la cause de la lutte contre la corruption. Donc nous pouvons dire que cette première étape se trouve être intéressante. On ne peut pas ne pas reconnaître ce que le Cameroun a pu gagner là-dessus. Deuxième chose maintenant, c'est cette éducation dont nous parlons. Et nous pensons que les moyens qui sont mis à notre disposition peuvent être davantage renforcés. Plus on a renforcé, compte tenu des besoins que la population a souvent exprimés, celle de voir la CONAC étendue au niveau de tout le territoire national. Et si cela pouvait arriver, cela aiderait de beaucoup pour résoudre davantage les problèmes ponctuels, in situ, comme on peut le dire, afin que les informations qui nous parviennent ne nous échappent pas et ne soient pas distraites par rapport aux réalités des faits de corruption qui auront été constatés sur le terrain. Troisième chose, beaucoup de responsables au niveau de notre pays sont engagés à lutter contre la corruption. Pour preuve, nous ne citons pas les noms, mais vous suivez, d'ailleurs c'est au niveau de la CRTV que nous apprenons beaucoup de bonnes nouvelles, où certains responsables de haut niveau, certains ministres prennent le courage pour dire non à certaines pratiques et à dénoncer même ceux qui ont biaisé, et on a confronté à des faux fonctionnaires, à des faux diplômes, à des faux postes de responsabilité, à des faux bulletins de salaire, etc. Vous voyez qu'avant, c'était des choses qui étaient un peu tabou, mais aujourd'hui, beaucoup de ministres, certains ministres, sont engagés à pouvoir lutter effectivement contre la corruption, et nous disons que...
Est-ce que ce n'est pas une portion congrue, c'est-à-dire, on pourrait dire c'est une goutte d'eau dans un océan.
On ne peut pas se limiter à la goutte d'eau, mais nous disons que beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Mais il restait encore à faire. Parce que parler d'une goutte d'eau, c'est comme si rien ne se faisait du tout. C'était insignifiant. On ne peut pas dire que c'est insignifiant. Parce que nous sommes aujourd'hui face à certaines réalités où nous recevons le plus souvent. Nous présentons chaque année des rapports et dans ces rapports, nous signalons quels sont les ministères qui contribuent et quels sont les ministères qui ne le font pas, ou bien les établissements publics ou parapublics ou encore des sociétés, les ONG, etc. Donc, nous disons qu'il y a déjà un intérêt. Et puis, le nombre de dénonciations, ça c'est la quatrième chose, le nombre de dénonciations est devenu croissant. Il est plus important, on est à plus de 3000 dénonciations aujourd'hui par mois, hein, la moyenne. Cela veut dire que les Camerounais prennent déjà le problème très au sérieux. Mais toujours est-il que nous disons toujours aux uns et aux autres que les dénonciations ne doivent pas être fantaisistes. Elles doivent être fondées avec des preuves à l'appui. Et d'ailleurs, nous revenons de Bertois. Nous avons célébré avec une marche la 8e édition de la lutte contre la corruption au niveau africain. Et à ce niveau, nous avons pu faire aussi un séminaire de formation. Et c'est à ce niveau aussi qu'on a dit nous devons veiller pour protéger les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte. Et ces lanceurs d'alerte doivent être conséquents par rapport à ceux qui sont appelés à faire et à dire. Parce qu'avec les lanceurs d'alerte, on éviterait qu'il y ait davantage plus de corruption, de détournement, d'actions qui soient négatives par rapport au développement de notre pays, à la gestion des fonds publics, des fonds destinés au bien de la population.
Monsieur le Président, à vous entendre, le travail est justement fait et beaucoup de choses sont à faire. Quel est selon vous le talon d'Achille dans cette lutte que vous menez depuis près de 2 décennies, 18 ans déjà? Qu'est-ce qui cloche en dehors des problèmes de moyens dont vous avez parlé tout à l'heure?
Bien, en dehors des problèmes de moyens, nous venons de faire des statistiques. Nous venons de les faire après Bertois et nous nous sommes rendus compte qu'on ne devrait pas utiliser les IRR comme étant des slogans politiques. Sinon, l'on va risquer de biaiser. Mais que les IRR soient des réalités, à savoir les initiatives à résultats rapides. Et nous avons dit, quand on lançait les IRR en 2017, que en 100 jours, un ministère ou un établissement public ou parapublic ou bien une ONG, une organisation pouvait résoudre des problèmes de corruption dans son sein dans son unité et permettrait que cela puisse être implémenté un peu plus loin encore, non seulement au niveau de sa structure en interne, mais aussi en externe.
Et 7 ans après, ça n'a pas pris la moutarde?
Bon, ça n'a pas pris parce que les résultats que nous avons actuellement prouvent que nous sommes à 50% des ministères qui n'ont pas continué à réaliser les IRR. On s'est limité au lancement le jour. Les uns et les autres s'y sont intéressés à dire nous avons lancé les IRR, mais l'impact n'a pas suivi parce qu'il n'y a pas eu une action continue. Parce que ceci devrait servir, à notre humble avis, d'exemple qui devrait être implémenté au niveau régional, départemental et au niveau communal. Mais si on se limite seulement au niveau ministériel et qu'on s'arrête à une seule IRR, cela veut dire qu'on n'aura pas encore atteint les objectifs attendus. Et c'est ça, l'un des talons d'Achille dont vous êtes en train de parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que les responsables ministériels utilisent leur pouvoir pour faire ce que nous pouvons appeler la répression ou encore l'intimidation. Que ceux qui sont chargés de lutter contre la corruption dans les cellules ministérielles aient effectivement la liberté et la possibilité de faire objectivement leur travail et de présenter les résultats. Mais s'il arrive que leur chef hiérarchique se mette à bloquer dans ce sens qu'il y aurait des représailles vis-à-vis de ceux qui dénoncent ou bien de ceux qui veulent la transformation, le changement. Vraiment, nous insistons là-dessus. Que les vieilles habitudes qu'on a souvent développées changent et que ceci doit arriver en promouvant l'intégrité et la sincérité dans la gestion des biens, des fonds publics. Et ceci, on devrait le comprendre que tous les services à quelque niveau que ce soit, sont pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt particulier. Chacun doit dire « Je suis au service de la nation, je suis au service du peuple. Et si le peuple a fait de moi ce que je suis, je dois respecter ce peuple et lui rendre service. »
Alors, et si on parlait des services, justement, où le bas blesse encore, où des efforts sont à faire ou à améliorer, c'est où vous aviez l'habitude de faire un classement annuel presque, oui. Sur les domaines où il faut encore appuyer ou alors ça
non,
fait
non,
mal.
Nous, c'est vrai que nous faisons des classements, mais le constat est général. C'est que en dehors de quelques ministères, nous tenons ici à tirer le chapeau un peu à Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale, un peu aussi le chapeau, un peu de chapeau au niveau du ministère de la Défense, parce que là on sent les activités qui sont en train de se mener, et même au niveau de la fonction publique, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits, mais il y a encore des goulots d'étranglement au niveau de certains. Bon, on a signé même des partenariats avec le ministère des femmes et de la famille. Et là également, on a tenu des partenariats et puis ça donne quand même des résultats. Mais on se dit, il faut que les autres ministères emboîtent le pas. On ne peut pas dire qu'il y a un pourcentage qui soit, à notre avis, suffisamment élevé d'une manière positive. Vous voyez, le Cameroun est parmi les 10. Et on n'a pas encore atteint la moyenne, peut-être même de 50 sur 100. On ne l'a pas encore atteinte. Cette moyenne-là. Donc nous ne sommes même pas encore parmi les pays qu'on peut considérer comme étant ceux qui ont dépassé la ligne rouge. Donc on est un peu encore en bas de la ligne rouge et je crois qu'il faudrait que nous fassions des efforts et je crois que les Camerounais peuvent comprendre de quoi il est question. C'est pour l'intérêt du développement de notre pays. Heureusement qu'on est en train de parler de la décentralisation aujourd'hui, mais que ceci, qui a été une belle initiative du chef de l'État, ne tombe pas dans l'eau. Qu'on ne parle pas de la décentralisation. Et puis après, la population n'en bénéficie pas. Il faudrait bien que cette population bénéficie de la décentralisation.
Justement, Monsieur le Président, vous permettez, depuis que cette décentralisation est impactée ou actée par les textes et par la volonté présidentielle, on a l'impression que, au niveau des municipalités, il n'y a pas toujours cet impact-là. Alors que le président de la République veut ce développement local qui est le développement vrai. Est-ce que l'action de la CONAC a quelques difficultés à pouvoir atteindre la base ?
Justement, vous faites bien de le souligner et nous avons rencontré beaucoup de maires. Nous les avons déjà rencontrés parce que nous avons envoyé des missions sur le terrain pour rencontrer certains maires qui sont d'ailleurs venus nous rencontrer également à Yaoundé. Et la grande difficulté ou bien les difficultés se présentent à un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que certains maires ont été élus sans savoir en réalité qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas manqué de l'exprimer. Et ils ont demandé d'ailleurs à être outillés et que la CONAC puisse les former par rapport à cela. Deuxièmement, les textes même de la décentralisation semblent ne pas être suffisamment maîtrisés par certains maires. Cela veut dire donc que ces textes doivent être davantage vulgarisés pour que les conseillers aussi, pas seulement le maire, mais que le conseiller qui représente une communauté, une population, un village, que le conseiller soit à mesure de dire que le texte nous demande de faire ceci, voici nos droits, voici nos devoirs. Et si on a voté un budget et on a arrêté un projet, qu'il soit à mesure d'aller sur le terrain et de voir comment est-ce que le budget en question est en train d'être exécuté pour l'intérêt de la population. Ça, c'est la deuxième préoccupation. Et la troisième préoccupation, ils nous l'ont dit, il n'y a pas de cellule de lutte contre la corruption au niveau de plusieurs communes. Ça nécessite maintenant, de la part de la CONAC, une descente sur le terrain pour organiser des séminaires de formation des maires afin de mettre en place des cellules de lutte contre la corruption.
Et c'est votre prochain cheval de bataille?
Et c'est le prochain chemin de bataille. Ce qui nous permettra d'ailleurs de procéder à ce que le texte organique nous demande de faire, à savoir le contrôle physico-financier des projets qui ont été retenus et qui à un moment donné se trouvent être abandonnés, non réalisés ou bien réalisés à moitié et puis on dit un projet ne peut plus aboutir parce que la maturation ou bien le suivi sur le terrain, cela ne s'est pas réalisé.
On va terminer par là, Monsieur le Président. C'est le reproche qu'on a toujours fait par rapport à votre institution, celle que vous dirigez, la CONAC. Il n'y a pas de pouvoir de sanction. La sensibilisation, c'est vrai. La moralisation, c'est mieux.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de pouvoir de sanction.
Tout à fait.
Juste des propositions au président de la République et ça prend le temps que ça prend.
Bien, mais nous ne sommes pas les décideurs, Monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas les décideurs. Nous faisons selon ce que prévoit le texte organique. Nous pensons aussi que les uns et les autres qui sont chargés de travailler là-dessus tiennent compte de ce que la population demande. Et à ce niveau-là, nous ne pouvons que nous plier pour dire que la population devrait davantage être patiente pour savoir que la ville de Paris n'a pas été construite en un jour, en un an. Même pour construire une maison, on ne la construit pas facilement en un an. On construit une maison avec un peu de temps, on va progressivement. Et ce qui est bien pour les Africains que nous sommes, les Africains disent toujours qu'il faut aller au pas de la tortue et non au pas du lièvre. Parce que le lièvre, à un moment donné, va un peu trop vite et puis traverse un certain nombre de choses sans regarder et faire attention. Alors que la tortue, qui est considérée comme le sage de l'Afrique, faut aller posément, doucement, qui va doucement, va sûrement.
Et dites-nous, Monsieur le Président, lorsque un acte de corruption intéresse une haute personnalité de la République, quelqu'un qui a le bras long, et on vient vous saisir, dénonciation, qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que ça fait? Ça ne nous pose pas de problème.
Lorsque vous avez fait des investigations, vous envoyez la copie?
Mais bien sûr, on a envoyé la copie, mais il y a toujours aussi des interventions qui se font. Et nous ne pouvons pas vous dire quelles sont les sanctions qui sont souvent arrivées pour certaines personnalités. Et ça, cela reste à la discrétion de la haute hiérarchie de notre pays. Mais toujours est-il qu'il y a eu des sanctions. Et actuellement même, il y a des sanctions. Ils tombent. Mais on ne peut pas vous dire que telle sanction est arrivée parce que la CONAC aura fait ceci ou cela. On ne veut pas crier sur les toits pour dire que voici ce que nous avons fait, mais nous le faisons bien sûr avec le concours des services judiciaires. La CONAC n'est pas un service judiciaire. La CONAC est une structure de lutte contre la corruption. Les sanctions judiciaires restent à la compétence des structures judiciaires.
Merci, révérend docteur Dieudonné Massiga, président de la CONAC. Merci d'être venu à cette tribune ce soir.
C'est nous qui vous remercions et nous vous disons toute notre reconnaissance, surtout que vous voulez davantage faire savoir ce que la CONAC fait, informer la société et interpeller cette société également, la société camerounaise, pour le bien fondé de la lutte contre la corruption.
Fin de cette édition de votre programme La Voix du Palais avec la coordination de Yves-Marc Medjou. Préparation et présentation Dieudonné Oumba. Merci à toutes nos équipes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. Vous nous écouterez encore certainement dans 2 semaines. Merci.